étonnante parabole que celle de ce gérant malhonnête dont Jésus fait la louange. En fait, Jésus ne loue pas sa malhonnêteté, mais son habileté. Car la conduite de ce gérant n'a rien d'immoral. Il ne vole pas son maître. Il faut savoir qu'à l'époque, les gérants n'étaient pas payés directement par leur maître, mais ils aménageaient leur salaire en augmentant la dette ou les intérêts de leurs clients. Et ainsi, en diminuant la dette des débiteurs, le gérant ne puise pas dans l'argent de son maître, mais dans ses propres revenus à lui. Voilà pourquoi son maître fait son éloge, car ce gérant a compris qu'il vaut mieux qu'il perde, lui, de l'argent, plutôt qu'il perde ses amis. Alors, nous pourrions tirer plusieurs leçons de cette parabole. La première, c'est que l'argent, qualifié ici de trompeur, mais on parle d'argent, mais ça pourrait être tous les biens matériels que nous possédons, l'argent ou les biens matériels peuvent aveugler et rendre esclaves, nous le savons. Il faut commencer par distinguer deux formes d'amour, la cupiditas et la caritas. Saint Augustin fait cette distinction. Car finalement, c'est en fonction de l'amour que nous avons pour les choses de ce monde, eh bien, que notre amour est bon ou mauvais. Car en soi, l'amour n'est ni bon ni mauvais. Mais l'amour est bon quand son objet est bon. Il est mauvais quand son objet est mauvais. Et l'amour que nous avons tend soit vers les choses d'en haut, vers les choses élevées, vers Dieu, soit vers les choses inférieures, nous dit saint Augustin, les choses créées. Et c'est ainsi qu'il distingue la caritas, qui est l'amour pour Dieu, ce qui est éternel, l'amour pour les choses éternelles, et la cupiditas, l'amour pour le monde, pour les biens de la terre, pour ce qui est temporel. Mais si nous aimons Dieu, nous pourrons devenir semblables à lui. En revanche, si nous aimons le monde, eh bien nous serons semblables au monde. Dans un de ses sermons, lorsqu'il commente la première lettre de saint Jean, saint Augustin a ces belles expressions. « Chacun de nous participe à la nature de l'objet qu'il affectionne. Tu aimes la terre, tu seras terre. Tu aimes Dieu, tu seras Dieu. » Alors, il ne s'agit pas de ne pas aimer, mais comme dit saint Augustin et toute la tradition de l'Église, il faut choisir ce que nous devons aimer, les biens temporels ou les biens éternels. Les biens temporels ne sont pas mauvais en soi, mais les biens du ciel, les biens éternels, sont encore meilleurs. Et saint Augustin continue en disant « Est-ce qu'on vous dit n'aimez pas ? Non, bien sûr !» Vous seriez inerte, mort, détestable, misérable sans amour. Aimez, mais faites attention à ce que vous aimez. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, c'est la charité. L'amour du monde, l'amour de ce siècle, c'est la cupidité. Réfrénez la cupidité, excitez la charité. Et saint Augustin, dans ce commentaire d'un psaume, nous invite à purifier notre amour pour que nous ne soyons pas dans la cupiditas, mais dans la caritas. Après avoir parlé de cette parabole, nous avoir proposé cette parabole, Jésus donne une brève série de dictons et d'avertissements sur la relation que nous devons avoir avec l'argent, avec les biens de la terre. Et il nous invite finalement à choisir entre eux. Charité et cupidité, honnêteté et malhonnêteté, fidélité et infidélité, égoïsme et altruisme, bien ou mal. Et il termine ses avertissements en nous disant « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Et il nous invite donc à nous décider, car vous ne pouvez servir à la fois Dieu et l'argent. Première leçon donc de cette parabole, c'est que l'argent peut être trompeur, peut nous aveugler, peut nous rendre esclaves. Et cette deuxième, la deuxième leçon que nous pouvons tirer de cette parabole, c'est que l'argent devrait, au contraire, nous ouvrir au partage, à la solidarité, à la fraternité. Il devrait servir à nous faire des amis et non des ennemis, car l'argent devrait être au service de la communion, non de la division. Et on pourrait reprendre tout ce qui nous est proposé dans la doctrine sociale de l'Église. Vous savez, depuis le pape Léon XIII, tout particulièrement, à la fin du XIXe siècle, et son encyclique Rerum Novarum, eh bien le magistère a développé toute une doctrine justement sur ce rapport au monde, comment appliquer l'Évangile finalement aux réalités de ce monde. Car l'Évangile ne vient pas seulement irriguer ma vie spirituelle, ma vie de prière, mais l'Évangile doit irriguer la totalité de mon existence, la totalité de ma vie. Jusque dans ma vie professionnelle, ma vie familiale, ma vie amicale, ma vie relationnelle, ma vie quotidienne. Il y a une vingtaine d'années, il y a un compendium de la doctrine sociale de l'Église qui a été publié. Et il y a plusieurs principes qui sont rappelés dans ce texte. J'en retiendrai deux ce matin qui sont liés immédiatement à la page d'Évangile que nous venons d'entendre. Premier principe que nous pourrions voir ensemble, c'est le principe du bien commun. Le principe du bien commun. Alors que le libéralisme dit « c'est à moi et c'est pour moi cet argent, ces biens matériels ». Alors que le communisme dit, ou disait plutôt, c'est à tous et c'est pour tous cet argent, ces biens matériels, donc pas de propriété privée, eh bien l'Église, en affirmant le principe du bien commun, tient une position médiane entre les deux. Elle dit, c'est à moi, cet argent, ces biens, donc elle reconnaît la propriété privée, mais elle dit aussi, c'est à tous, parce que nous en sommes les gérants, les intendants. Premier principe de la doctrine sociale de l'Église, c'est ce principe du bien commun. Et il y a un autre principe qui lui est lié, c'est le principe de la destination universelle des biens. Ce principe ne signifie pas que tout soit, et je reprends les termes exacts du compendium, que tout soit à la disposition de chacun ou de tous, ni même que la même chose serve ou appartienne à chacun ou à tous. Tout n'est pas pour tous disponible à tous. Il y a des accords qui sont nécessaires pour réglementer des échanges, le commerce, tout comme il y a un ordre juridique qui est nécessaire pour déterminer et donner un cadre à ces échanges. Mais, et je cite encore le compendium, le principe de la destination universelle des biens invite à cultiver une vision de l'économie inspirée des valeurs morales qui permettent de ne jamais perdre de vue ni l'origine ni la finalité de ces biens de façon à réaliser un monde juste et solidaire. Ne pas perdre de vue l'origine des biens que nous avons, qui viennent de Dieu, ni leur finalité, tout doit retourner à Dieu. Et ainsi, on peut entrer dans une dimension de partage, car les richesses que nous possédons, les biens matériels, existent pour qu'on puisse les partager. Ils ne sont pas d'abord pour nous, car aucune personne ne peut trouver sa réalisation uniquement en elle-même. Et comme dit encore le compendium, personne ne peut trouver cette réalisation en elle-même, indépendamment de son être avec et de son être pour les autres. Alors ce matin, nous pourrions nous poser la question, quels sont pour moi, parce qu'il faut d'abord se poser la question pour soi-même, quelles sont pour moi les occasions de partage, les partages de mes biens matériels, le temps aussi que je possède, l'amitié, les biens spirituels. Et essayons d'être inventifs pour savoir partager, donner autour de nous. Dans cette page d'Évangile, Jésus loue l'habileté des fils de ce monde. Il aimerait bien que les fils de la lumière puissent faire de même. Alors soyons aussi inventifs dans nos manières de partager et de nous donner. Troisième leçon de cette parabole, c'est que la valeur de quelqu'un ne dépend pas de ce qu'il a, mais de ce qu'il est. C'est-à-dire que nous sommes invités à mettre nos biens au service de la relation, de la communion, et pas de les garder pour nous. Quand l'argent vient briser les relations, la communion, notre rapport aux biens de ce monde n'est pas ajusté. Et nous le savons, la valeur d'une personne dépend de ce qu'il est et de la qualité de son cœur. Saint Jean-Paul II, dans un discours célèbre qu'il avait fait devant les jeunes de France au Parc des Princes, cela date déjà il y a 45 ans, mais le contenu est toujours actuel, disait à tous les jeunes rassemblés, « Vous valez ce que vaut votre cœur, votre valeur, la richesse de votre vie, c'est votre cœur. » Et il poursuivait en les exhortant, mais c'est actuel et nous pouvons accueillir encore ceci pour nous. Aimer, c'est essentiellement se donner aux autres. Loin d'être une inclination instinctive, l'amour est une décision consciente de la volonté d'aller vers les autres. Pour pouvoir aimer en vérité, il faut se détacher de bien des choses et surtout de soi. Donner gratuitement, aimer jusqu'au bout. Cette dépossession de soi, disait le Saint-Père, c'est une œuvre de longue haleine. Elle est épuisante, exigeante, mais excitante. Elle est source d'équilibre. Elle est le secret du bonheur. Demandez la grâce de ce détachement des biens de ce monde. Il est possible de posséder, mais ne pas d'être attaché à tous ces biens, d'avoir le cœur libre par rapport à tous ces biens. Et nous connaissons aussi cette phrase de l'Évangile que Jésus disait « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, car c'est dans le cœur que se joue le salut. » Le salut qui est une libération intégrale de l'homme, une libération par rapport à nos besoins, mais aussi par rapport à cette idée de posséder. Et le cœur, nous le savons, le pape François nous l'a rappelé dans sa dernière encyclique, n'est pas seulement le lieu des émotions, de la sensibilité, mais le lieu des décisions. Nous sommes invités à rejeter le mal pour choisir le bien et à réorienter, choisir de réorienter nos désirs vers les biens éternels, les biens qui demeurent. Je terminerai en disant qu'une des qualités de l'intendant malhonnête qui nous est présentée par Jésus, c'est qu'il avait prévu, on peut même jouer sur ce mot-là, il avait prévu, il voyait plus loin. Il a compris qu'il avait un avenir, qu'il y avait un avenir pour l'homme et que c'est maintenant que cet avenir se jouait. Il avait donc prévu sa situation et il avait agi en conséquence. Il avait utilisé les quelques heures dont il disposait pour avoir demain le moyen de subsister quand il serait renvoyé. Donc en faisant venir tous ceux qui l'avaient sous ses ordres. Et en fait, cette attitude de l'intendant malhonnête est entièrement opposée à celle du mauvais riche de la parabole dont nous entendrons le récit dimanche prochain. Le mauvais riche, vous vous rappelez avec Lazare de la parabole, ce mauvais riche n'avait rien fait de mal. D'ailleurs, il n'avait pas fait de bien non plus. Mais il n'avait songé toute sa vie qu'à jouir de ses biens et de leur présente. Il n'avait pas vu Lazare qui était à sa porte. Il n'avait rien vu et il n'avait rien prévu. Et dans son existence, il n'y avait que lui et son argent. Il vivait dans un monde sans relation et sans avenir. Et vous voyez que ce dimanche, comme dimanche prochain, l'Église nous propose la figure de deux hommes dans leur rapport à l'argent et aux biens de ce monde, dont la destinée est bien différente. Le mauvais riche et ce gérant malhonnête, parce que l'un, par son imprévoyance, le mauvais riche part à la catastrophe, et l'autre, en utilisant habilement les ressources dont il dispose, semble accueillir in extremis le salut. Et on comprend mieux cette phrase pas évidente de l'Évangile d'aujourd'hui, dite par Jésus, « Eh bien, moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, cet argent, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. » Alors, Nous pouvons demander, en méditant cet évangile, la grâce d'un juste rapport au bien de ce monde. Nous pouvons aimer le monde, mais pas de manière exagérée. Demandons cette grâce d'un juste rapport au bien de ce monde. Demandons aussi la grâce du partage pour vivre de cette spiritualité de communion dont nous parlent nos papes. Car nous le savons, nous sommes faits pour le ciel, non pour la terre. Tu nous as faits pour toi, hâtés vers toi, Seigneur. Et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi.